Bonjour à toutes et à tous. Deux règnes opposés, sous le péché ou sous la grâce. Pour préparer ce temps que nous voulons vivre de manière assez intense, ce temps de préparation à Pâques, je nous invite à nous joindre à une joyeuse équipe que vous voyez en photo là, dont certains membres éminents sont dans la salle. Je ne sais pas si vous savez, mais peut-être que oui, peut-être que non, mais 11 personnes de notre communauté sont actuellement en train de se préparer en vue de recevoir le baptême. Alors je vous donne juste les prénoms et puis ça vous donnera une idée de qui ils sont. Il y a Amandine, Noémie, Eisata, Alexia, Caroline, Jessica, Naomi, Mathieu, Vincent, Jérémy et Joachim. Ça fait 11 personnes. Ouais, bravo, exactement. Bravo pour ça. Bravo pour cette belle décision. Bravo pour cette envie d'aller de l'avant avec Dieu. Bravo pour cette envie de s'engager à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans cette phase jusqu'au 1er juillet, parce que la date du 1er juillet, vous l'avez déjà tous mis en rouge dans votre agenda, puis ce sera le jour des baptêmes, certainement au bord du lac et ensuite ici pour un culte de témoignage et de reconnaissance, 1er juillet. D'ici là, on a prévu avec Nathalie et Myriam plusieurs moments où on peut creuser un peu plus ce que nous dit la parole, ce que nous dit notre Père, pour être le plus au clair possible, ou le plus préparé par rapport à cet engagement de marcher à la suite du Christ. Ce n'est pas rien, cet engagement de marcher à la suite du Christ. Et puis, je me suis dit que dans cette perspective de préparer Pâques, ce qu'on avait vécu dans l'une des sessions, c'était suffisamment fort pour qu'on puisse tous ensemble, en communauté, finalement vivre un peu ce temps de communion avec ces personnes qui préparent le baptême, et puis vivre aussi quelque chose de fort pour nous dans cette préparation à Pâques. Et pour ce faire, on a pris un texte qui est assez dense. Alors Anthony m'a dit, toi tu prends directement deux chapitres de Romains à la suite. Déjà un verset, on pourrait faire presque une prédication sans problème. Alors deux chapitres, accrochez-vous, on va commencer, mais ça devrait aller. Je vais me concentrer sur ces deux aspects. Adam qui symbolise le règne du péché, Christ qui symbolise le règne de la grâce. Péché et grâce, on va aller voir ces deux règnes opposés. Et on va voir à quel point le baptême et Pâques jouent un rôle de pont entre ces deux règnes. Voilà, comme ça, si vous devez retenir qu'un seul truc, Adam, Christ, péché, grâce, et comment le baptême fait un pont, et la croix fait un pont entre les deux. Je vous invite à la lecture. Chapitre 5, versets 1 à 5 pour commencer. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour, en qui nous vivons maintenant, et nous sommes fiers, parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Et ce verset 2 est dans une autre traduction, j'aime encore presque mieux cette autre traduction, qui dit « Par lui, nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous sommes établi, et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu, dans la grâce dans laquelle nous sommes établis. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient, et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance, et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Mais il y a une grande différence, ou une énorme différence, comme dirait mon fils, entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé également par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même, maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez bien, début du chapitre 6, notre baptême en nous unissant au Christ Jésus nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés par lui, avec lui, dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Amen. Alors voilà ce que ça a donné lorsque je leur ai proposé de faire un petit exercice assez simple mais assez profond sur ces deux règnes que l'on voit se dessiner à travers ce texte de l'apôtre Paul. Colonne de gauche, on avait le péché. Colonne de droite, on avait la grâce ou les bienfaits ou la bonté de Dieu. Il y a plusieurs termes différents qui sont employés. Et puis je leur ai donné 5-10 minutes pour noter trois mots-clés de ce qu'ils pensaient pouvoir déterminer sur cette colonne de gauche sous le règne du péché et cette colonne de droite sous le règne de la grâce. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilités différentes de ce qui émane directement de ce que Paul nous partage. Il y a des éléments qui se retrouvent, et puis j'ai fait une liste qui est un peu plus lisible, on va dire ça comme ça. Sous le péché ou la mort, le règne du péché ou le règne de la mort, on a la croix, la souffrance, la repentance, la nature, la loi, la séparation, l'esclavage, l'être humain, la désobéissance. On a aussi la grâce, on retrouve la croix, on a les fautes au pluriel, la faute au singulier, la condamnation, on a Jésus qui est là, et le pardon. Dans l'autre colonne, dans cette colonne de grâce et de ce règne de vie, on a l'amour, on a Jésus également. Un don gratuit, ça s'est revenu très souvent. Et la justice, l'éternité, la paix, la justification. On a aussi quelque chose d'incompréhensible. On a le baptême, le salut, un cadeau, ça c'est celui qui est revenu le plus souvent. On a la libération, on a la résurrection, ressuscité. On a la réconciliation. On a l'obéissance. Puis j'en ai oublié encore quelques-uns, parce que je n'arrivais plus à tout lire. Mais vous voyez, les listes sont nombreuses de chaque côté et qui, d'une certaine manière, se font face et, subtilement, d'une autre manière, se retrouvent dans l'une ou l'autre colonne les mêmes éléments. Et c'est très intéressant de voir comme quoi ce sont deux règnes opposés, mais qui sont en relation l'un avec l'autre, de manière assez subtile, et c'est ce que nous allons un peu voir. Ces chapitres 5 et 6, dans toute l'œuvre de l'Épître aux Romains, parce que c'est toujours un peu compliqué de prendre juste ces deux chapitres-là, puis de ne pas avoir l'ensemble du propos, parce que Paul, il aime bien avoir une certaine cohérence entre le début et la fin de ce qu'il raconte. C'est vraiment un chapitre qui fait office de transition. Les quatre premiers chapitres, Paul, il essaye de nous démontrer, par A plus B, que nous sommes tous et toutes pécheurs, c'est-à-dire privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire privés même de cette relation avec ce Dieu d'amour qu'on vient de chanter. Il nous montre là, par A plus B, c'est-à-dire que pour les païens, pour les juifs, et finalement pour tous les êtres humains, on est tous à la même enseigne, on est privés de cette gloire de ce Dieu trois fois saint. Et il arrive au début de ce chapitre 5, et puis qui commence par ce magnifique « oui », Nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 4 longs chapitres qui nous exposent que, en fait, non, on n'est pas censé être en communion avec ce Dieu d'amour et rendu juste et croyant. Pendant 4 longs chapitres, c'est ça. Et d'avoir là, au début de cette phrase, ce magnifique oui, ça montre un peu l'épaisseur de ce qu'il a fallu accomplir à la croix pour nous. C'est pas rien, c'est énorme. Et j'insiste sur cet énorme de ce oui. Parce que notre tendance un peu, qui peut nous arriver, je ne dis pas qu'elle nous arrive, à vous ça ne vous arrive pas, mais à moi ça m'arrive des fois, c'est qu'on tombe dans ce premier écueil de cacher un peu cette colonne de gauche du péché et de la mort. Parce qu'on se dit, c'est génial, nous sommes sous la grâce, le péché n'existe plus, c'est de l'histoire passée, il a été vaincu à la croix, on croit à la résurrection, on croit à la victoire de Jésus-Christ dans nos vies et sur nos vies. Et du coup, toutes ces mauvaises choses, toute cette souffrance, toute cette nature, toute cette loi, tout cet esclavage, toute cette désobéissance, finalement, ça ne nous intéresse que plus tellement parce qu'on est déjà sous la grâce et finalement, ça se passe très bien comme ça. Le péché, il reste finalement éloigné à jamais. Et là, Paul, il nous met en garde contre cette manière-là de penser. Parce que seulement avoir cette colonne-là, ce n'est pas cohérent et ce n'est pas réaliste par rapport à la vie qui est la nôtre encore sur cette terre. Nous devons assumer notre histoire et notre filiation, c'est-à-dire que nous sommes les fils et les filles d'Adam qui a commis cette faute originelle. On va y revenir dessus dans quelques temps aussi dans notre prochaine série. Mais là, elle est là, cette faute originelle qui nous poursuit parce qu'on ne fait pas partie de notre histoire seulement à nous, on fait partie d'une histoire beaucoup plus large. On est par essence en communauté humaine, les uns avec les autres. On a tous le même père, tous la même mère, Adam et Ève. C'est comme ça que la Bible comprend les choses. Et de ces deux personnes, nous descendons et ils nous marquent de ce sceau du péché. Donc, il est là, de fait même que l'on soit né, nous marque de cette nature-là, qu'on le veuille ou non. La venue de Jésus-Christ change tout, mais n'efface pas complètement le monde dans lequel nous sommes. Nous faisons partie de ce tout. Et si on se concentre uniquement sur cette colonne-là de la grâce et de la vie, je nous trouve un peu comme ce smiley ici, un peu joyeux, mais aussi avec un petit côté naïf. Je ne sais pas si vous le trouvez un peu bébête quand même, le gars là, avec sa casquette, tout joyeux, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, aucun problème, on peut y aller, c'est la classe. Ça me rappelle toujours mes profs d'école du dimanche qui m'a beaucoup marqué, et puis qui m'a beaucoup marqué parce qu'ils étaient assez différents de moi dans sa manière de vivre sa foi. C'était quelqu'un de très expansif, de très... toujours à trouver des solutions, on y va. Puis il me mettait en garde pourtant quelqu'un de très optimiste qui voyait toujours des solutions. La chose qui nous mettait le plus souvent en garde, c'est de vous dire, mais la vie chrétienne, mes amis, ce n'est pas une paire de pâtes à roulettes à la descente où vous pouvez surfer, puis tout va bien, puis vous éclatez. On n'est pas dans le surf. On n'est pas comme ce smiley-là, tout va bien parce que lui était très conscient du combat qu'il avait à mener. Et ce combat qu'il a mené, c'est contre cette colonne de gauche du péché qui ressurgit à n'importe quel moment. Effacement du péché comme un premier écueil où on met une croix sur cet aspect-là des choses pour se dire on ne vit que sur la grâce. Ce n'est pas ce que nous dit Paul. Ces deux règnes restent d'actualité. Le deuxième écueil, c'est de faire exactement le contraire. C'est de se dire, plus ou moins consciemment, on ne garde que la colonne de gauche, cette colonne du péché, de la mort. Et puis finalement, là, on est sous le règne constant d'un mot que l'on connaît malheureusement que trop bien dans les milieux chrétiens. On est sous le règne de la culpabilité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce règne de la culpabilité. C'est un peu un mot peut-être qu'on n'utilise que dans les églises, mais il est très présent tout partout. C'est ce mot, comment le résumer, mais de se dire, on est constamment en train d'avoir des remords, des regrets. On est constamment en train d'être attiré par tout ce qu'on n'a pas fait complètement juste. Ou tout ce qui nous paraît être imparfait en nous. Et cette imperfection, ces fautes, ces regrets qu'on peut avoir, c'est comme s'ils en viennent à occuper tout l'espace. On est focalisé sur eux, on les ressasse, ces mauvaises pensées reviennent, elles en produisent de nouvelles, et puis on est dans ce marasme, dans cette espèce de marais, et puis on ne sait plus trop comment en sortir. Puis c'est vrai que pour moi, en tant que pasteur, c'est une grande souffrance de voir beaucoup de chrétiennes, de chrétiens, qui sont encore, jeunes et vieux, sous cette chape de plomb, finalement, sous ce couvercle de la culpabilité. Puis je me demande pourquoi c'est encore possible que cette chape, elle soit si puissante et si forte. Et puis il y a plein de raisons, mais c'est vrai que quand on pense à l'exigence, par exemple, de la vie chrétienne, on se dit, mais c'est impossible. J'arriverai jamais à vraiment aimer mon prochain comme moi-même. J'arriverai jamais vraiment à bénir ceux qui me maudissent, à aller vers mon ennemi. Ce n'est pas possible. Donc, chaque fois qu'on est dans ce pas possible, on se dit, ah mince, j'ai encore raté. Puis on descend petit à petit et on se ferme finalement à la grâce. On est là en train de mettre une croix sur cette puissance de vie et cette puissance de grâce qui descend. Ce que nous dit Paul, c'est que les deux sont en lien, mais les deux ne sont pas au même niveau. C'est ce que l'on voit dans ces versets 15 à 21, où Paul progresse de manière admirable pour arriver à cette conclusion générale du verset 21 que je nous laisse pour nous ce matin. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux colonnes ne sont pas identiques parce que là où le péché a pu abonder, que nous dit le texte, la grâce a surabondé. Exactement. Là où le péché est présent peut-être en grand nombre, la grâce systématiquement prend le dessus. Et pour nous, actuellement, dans notre vie terrestre, qui est la nôtre, la colonne de gauche n'est pas effacée, mais elle est clairement en diminution par rapport à cette colonne de droite d'amour, de dons gratuits, de justice, d'éternité déjà, de justification, de salut, de cadeau, de libération. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde plus cette colonne-là, parce qu'on sait très bien, au fond de nos cœurs, qu'elle est encore très présente, mais la colonne de la grâce, et la réalité surtout de la grâce, surpasse toute autre chose. Elle est plus grande et elle occupe plus d'espace et elle réduit toujours plus petit cette colonne de gauche du péché. Alors quand on est tenté par cette culpabilisation où on ne voit plus finalement autre chose que ces péchés et ces fautes qui nous entourent, qui nous encerclent finalement, pensons à cette réalité de surabondance de la grâce. Ce n'est pas une méthode couée, c'est une réalité de ce que Jésus a fait à la croix. Pensons toujours à cette signification de Pâques, où Pâques n'est pas la négation du péché, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est différent. On sait que cette colonne de gauche, que ce péché sera toujours là, mais Jésus, et c'est pour ça que j'ai choisi avec Damien cette image des trois croix pour illustrer le culte d'aujourd'hui, Jésus pose sa croix au milieu, et cette croix qui nous donne cet axe vertical à Dieu, cet axe horizontal, pour bien montrer qu'il y a une liaison entre les deux. C'est la victoire de la vie sur la mort. Ce n'est pas l'annulation, c'est la victoire sûre. Et il fallait bien une puissance telle que celle du Fils de Dieu pour vaincre la puissance du péché. Parce qu'il y a une puissance forte, et il y a eu un combat spirituel extrêmement fort qui s'est déroulé à Pâques. Ça ne s'est pas fait comme ça, en un claquement de doigts, comme nous, des fois, on a un peu la tendance à le faire, tellement qu'on intègre cette réalité, peut-être parce qu'on la sait, on sait que la vie a vaincu la mort, mais on n'imagine pas l'ampleur du combat, et l'ampleur du combat qui est toujours le nôtre à l'heure actuelle. Pour ne pas se laisser reprendre du côté gauche, ne pas se laisser ravoir par cette tentation, soit de la culpabilité, soit du jugement, soit de la Voilà, je vous laisse continuer la liste. Mais surtout, ne pas nous laisser avoir par cette tentation de la culpabilité. Ne nous laisse pas tomber en culpabilité, j'aurais envie de dire des fois. Car Dieu a posé cette croix au milieu pour rejoindre précisément ces deux mondes. Et j'aime beaucoup là, la pertinence de toutes ces personnes qui sont préparées au baptême, que déjà dans cette colonne de gauche, ils aient pensé à mettre des éléments comme la croix, comme la grâce, comme Jésus. Parce que Jésus a fait à Pâques et ce qu'il a fait à Vendredi Saint, c'est précisément d'aller là où c'était mort pour prendre par la main et redonner la vie. C'est ça qu'il a fait. On ne va pas faire de culte de Vendredi Saint, donc j'anticipe un petit peu, mais vous pouvez aller chez nos amis réformés et puis peut-être à d'autres endroits pour vivre ce moment-là où Jésus, de manière complètement consciente et volontaire, il va précisément là où c'est mort pour relever et remettre à la vie. Et c'est ça qu'on va fêter dimanche prochain à Pâques. Et c'est là que cette croix qui est posée comme un symbole unique et irremplaçable et indépassable, elle nous fait beaucoup de bien et elle donne, j'ose le mot, un sens à notre vie. Sans cette croix qui est posée là, entre ces deux mondes, notre vie n'a pas du tout le même sens. Et c'est ça le message que l'on transmet, c'est quel que soit finalement nos morts, nos culpabilités, nos péchés, et elles sont nombreuses, même chez les non-croyants, c'est impressionnant. Quand vous causez avec eux un tout petit peu plus profondément, on voit les regrets, les choses qui ont fait mal, les blessures, mais précisément Dieu va là et ramène de la mort à la vie. C'est ça le geste extraordinaire de Pâques et c'est ça le geste que nous nous souvenons chaque dimanche matin. C'est pour ça qu'on se réunit, pour rendre gloire à Dieu par rapport à ce geste unique qu'il nous a donné là. Et c'est ce qu'on se rappelle de manière particulière lorsque l'on se fait baptiser, lorsque l'on se prépare pour le baptême, ce magnifique symbole de partir dans l'eau, pas trop longtemps, je vous rassure, et ensuite de revenir à la vie. C'est ces deux versets de Romains au début du chapitre 6 qui nous montrent qu'à travers ce geste symbolique, on n'a rien de magique là derrière, mais à travers ce geste symbolique que l'on vit dans notre corps d'adulte, on peut aller dans l'eau et ressortir avec le Christ, expérimenter cette réalité-là de manière très forte. Parce que ça se passe dans notre corps même, on l'expérimente, et on a une chance unique, normalement une fois par vie, de le vivre de cette manière-là. Et puis c'est simplement ce qu'on fait à travers cette table tous les dimanches. C'est pour ça que ça en y tient aussi de le vivre tous les dimanches. C'est de se dire que tous les dimanches, on peut se rappeler qu'à travers ce pain, à travers ce vin, qui à nouveau sont deux symboles, c'est une manière de nous rappeler que Dieu va tout partout là où nous sommes morts, tout partout où le règne du péché peut avoir pris l'ensemble de l'espace. Il va là, il nous reprend par la main et il nous relève. C'est ça qu'on se rappelle à travers ce repas. Et c'est extrêmement fort. C'est pour ça qu'on y tient à le vivre dimanche après dimanche. Ce n'est pas une tradition. C'est parce qu'on a une conviction profonde que dans nos vies de tous les jours, on a facilement cette tendance à mettre une croix sur l'une ou l'autre des colonnes. Et bien, avec ce rappel, avec ce symbole qui nous est offert par Jésus lui-même, on peut aller au-delà et passer de nouveau sur de la mort à la vie. Aller fixer nos regards sur cette surabondance de vie, surabondance de grâce par rapport à la mort qui nous entoure. Alors oui, ce sont deux règnes qui sont opposés. Oui, ce sont deux règnes qui ne sont pas complètement séparés. Ils cohabitent encore là où nous sommes. Mais souvenons-nous, et c'est ce que nous allons pouvoir vivre maintenant, que les temps après la venue de Jésus, après sa mort, sa résurrection, les temps après Pâques, sont des temps de la grâce. Amen.